Nous arrivâmes vers 9 heures du soir à Koblenz. Ma compagne de voyage était si bien habituée à notre fraternité qu'elle ne s'inquiétait plus de la topographie de nos chambres et que nous eûtons donné la même chambre pourvu que cette chambre eût eu 2 lits, elle n'eût point fait d'observation. Nos chambres se trouvèrent contiguës. Celle de Lilia avait 2 lits. Nous soupâmes tous 3. Notre amie, la dame viennoise, avait accepté le triumphe minavira. Nous avions passé une après-midi adorable. En vérité, si les hommes savaient tout ce qu'il y a de charmant dans l'amitié d'une femme, et même de 2 femmes, ils verseraient peut-être une larme de plaisir, mais à coup sûr une larme de regret, le jour où ils franchiraient les limites de l'amitié pour mettre le pied dans les domaines de l'amour. Nous passâmes une charmante soirée. On nous servit le thé dans la chambre de Lilia et nous le prîmes près d'une large fenêtre, souvent sur le Rhin d'abord, un peu au-dessus du pont qui va à la forteresse d'Ehrenbreitstein, puis au-delà du Rhin sur les collines qui commencent à se changer en montagnes. La lune se leva et fit ruisseler le long des montagnes des flots de douce lumière qui vinrent aboutir au Rhin et qui le changèrent en un immense miroir d'argent. Que dîmes-nous en face de cette merveilleuse nature? Je ne me le rappelle plus. Probablement parlâmes-nous de Shakespeare et d'Hugo, de Goethe et de Lamartine. Les grands poètes chantent les grands spectacles de la nature et, reconnaissant à coup sûr, les grands spectacles de la nature font penser aux grands poètes. Sans doute pour continuer autant qu'il était possible cette bonne intimité, notre amie viennoise demanda à Lilia de partager sa chambre. Lilia se retourna de mon côté comme pour me demander si cela ne me contrarierait pas. J'éclatai de rire. Je me retirai dans la mienne et je laissai ces 2 dames chez elle. Pour voir cette belle lune de mon lit et comme ma bougie serait soufflée, j'avais laissé mes persiennes ouvertes, mes rideaux non tirés, de sorte qu'à travers mes carreaux, je voyais le firmament tout d'azur, coupé d'une large trace blanchâtre, c'était la voie lactée, tandis qu'au plus profond du ciel, je voyais trembler une étoile alternativement rouge, blanche et bleue, c'était Aldébaran. Combien de temps contemplais-je ce doux et mélancolique spectacle de mes yeux ouverts ou à demi fermés, je ne le sais, et je finis par m'endormir. Et quand je rouvris les yeux encore, tout plein de cet azur nocturne et de ces bluets de flammes, je crus être en face d'un incendie. Tout ce qui était bleu la veille était maintenant de pourpre. Ce ciel, si calme et si limpide quelques heures auparavant, semblait rouler des vagues de feu. L'aurore se levait annonçant le soleil. J'étais en extase devant ce spectacle, lorsque je crus m'entendre appeler de la chambre voisine. Je prêtai l'oreille, et en effet mon prénom d'Alexandre vint jusqu'à moi. « Est-ce vous, Lilia ? » demandai-je à demi-voix de mon côté.
« Oui, vous êtes éveillée, tant mieux » continua-t-elle, toujours à voix basse. « Ne trouvez-vous pas magnifique la décoration que Dieu fait pour nous en ce moment ?»«
Splendide ! » Comme c'est fâcheux de voir un si beau soleil chacun de son côté.
Mais qui vous empêche de venir le voir d'ici?
Mais notre viennoise consent.
Bah, elle dort.
Ouvrez-moi la porte alors.
Ouvrez-la vous-même, elle n'a jamais été fermée.
Je sautai à bas de mon lit, je passai un pantalon à pied et ma robe de chambre, je chaussai mes pantoufles et j'entrai le plus doucement que je pus dans la chambre de mes voisines. Lilia, pour me servir de terme de théâtre, était couchée au côté cour et sa voisine au côté jardin. La haute fenêtre permettait à un rayon du jour naissant d'empourprer son lit et son visage qui semblait nager dans une lumière rose. Je détachai un miroir et, sans m'interposer entre le jour et elle, je le lui portai pour qu'elle s'y regardât. Il ne me fut pas difficile de reconnaître à son sourire qu'elle m'était reconnaissante de se voir si belle. « Eh bien, lui dis-je, embrassez-vous »
et j'approchai la glace de ses lèvres. « Non, dit-elle, embrassez-moi, cela vaudra mieux. » Je l'embrassai en lui souhaitant une longue suite d'aurores aussi belles que celles que nous voyions se lever, puis je reportai le miroir à son clou. « Prenez une chaise et asseyez-vous près de mon lit, dit-elle, j'ai une prétention. « Laquelle ?»« C'est que vous me racontiez une histoire qui, dans mon souvenir, restera éternellement mariée à celui de ce beau lever de soleil. » « Quelle histoire voulez-vous que l'on raconte en fin d'une pareille solennité? Vous connaissez Werther, vous connaissez Paul et Virginie. Ne m'avez-vous pas dit que vous deviez un des bons souvenirs de votre vie à une de mes compatriotes? Ah, c'est vrai, je vous ai dit cela. Ne m'avez-vous pas dit que ce souvenir n'était mêlé d'aucun trouble et que les seules larmes que vous eussent coûté 3 mois de bonheur étaient celles répandues au moment où vous étiez quitté? C'est encore vrai? Regardez-vous comme une indiscrétion de me raconter cette histoire? Non, par malheur, car il y a 2 ans que la personne est morte. Vous m'avez dit que non seulement elle était ma compatriote, mais encore qu'elle était comme moi artiste dramatique. Oui, seulement elle était dramatique en chantant, elle. Racontez-moi cela, je vous prie, mais parlez à demi-mot à cause de notre voisine qui dort. C'était en 1839. J'étais déjà vieux, comme vous voyez, j'avais 37 ans. Est-ce que vous serez jamais vieux, vous? Dieu vous entende. Je me trouvais donc pour la 3e fois à Naples et toujours sous un nom supposé. Cette fois, je portais le nom assez peu poétique de M. Durand. Je voulais retourner à Sorrente, à Amalfi, à Pompéi, que j'avais mal vu à mon premier voyage et que d'ailleurs on n'a jamais vu assez. En conséquence, fidèle à mes traditions, je me rendis au port et louai une de ces grandes barques siciliennes avec lesquelles j'avais déjà fait mon voyage de 1835. Cette fois, j'étais seul et je n'avais plus avec moi ces 2 bons compagnons que l'on appelait l'un Jadin et l'autre Milord. Cette fois, Dupré n'était plus à Naples, et Malibran n'était plus à Naples, et Persiani n'était plus à Naples. Oh, si Naples m'avait-il paru fort triste. Cependant, la veille de ce jour où j'allais fréter une barque, j'avais assisté à une grande solennité musicale. « Votre compatriote, Madame D., que vous me permettrez de ne vous désigner que sous son prénom de Maria, avait donné sa dernière représentation à Naples. Elle allait chanter au théâtre de Palerme. Madame D. était une grande et belle personne de 30 ans, parlant comme vous toutes les langues, ayant une très belle voix, mais surtout une voix admirablement dramatique. Son triomphe était la Norma. Je l'avais connue à Paris, où on lui avait fait jouer des rôles comiques, celui de Zerlina, entre autres, dans lequel elle avait eu un très grand succès. Je lui avais alors été présenté, après une représentation de Don Juan, et nous nous étions sentis pris d'une telle sympathie l'un pour l'autre, que lorsque je lui avais tout simplement dit que je la trouvais charmante, et que j'étais bien heureux qu'elle partît le surlendemain, elle m'avait naïvement répondu « Quel malheur, au contraire !» Mais m'empressai-je de lui dire, en 2 jours, il y a 48 heures, en 48 heures, 2880 minutes, c'est une éternité quand on sait les mettre à profit. Mais elle avait secoué la tête et avait répondu « Non, en 48 heures, j'aurai le temps de vous faire voir que vous me plaisez, mais pas celui de vous prouver que je vous aime. » La réponse m'avait paru concluante. Je n'avais pas insisté. Je lui avais baisé la main en la quittant. Elle était partie pour l'Allemagne, moi j'étais parti pour l'Italie, et nous ne les étions pas revus. Le hasard nous réunissait à Naples. Seulement, comme j'y étais sous un nom supposé, comme j'y étais de la veille, elle ignorait que j'y fusse. tandis que moi, je savais ses succès, ses applaudissements, ses triomphes. Son nom était non seulement sur toutes les affiches, mais encore dans toutes les bouches. Je m'étais informé d'elle, j'avais demandé où elle demeurait. On m'avait répondu rue de Tolède, et l'on m'avait donné son adresse précise. J'allais courir chez elle quand on m'avait arrêté par ces quelques mots. « Ah, vous savez qu'elle va se marier !»« Vous comprenez quelle douche d'eau glacée !» Cette phrase me versait sur la tête. « Se marier avec qui ?»« Avec un de vos compatriotes, un jeune compositeur que vous connaissez bien certainement, qui fait de la musique en amateur, le baron Ferdinand de Hesse. »« Ah, mon Dieu !» m'écriai-je. Et rien, en effet, ne pouvait m'étonner plus que cette alliance. Mais, comme les choses incroyables sont surtout celles auxquelles je crois tout d'abord, attendu qu'il faut qu'une chose incroyable soit pour que l'on dise qu'elle l'est, je demeurais étonné mais convaincu. À partir de ce moment, je n'avais même pas eu l'idée de revoir Maria, si elle n'avait pas jugé à propos de faire attention à moi. Quand elle allait partir dans 2 jours, à plus forte raison, ne me connaîtrait-elle plus quand elle allait se marier dans 8 jours. Peut-être, sans cette nouvelle, serais-je resté quelques jours de plus à Naples, au risque de m'y faire arrêter comme la première fois, mais tout au contraire, cela hâta mon départ. J'allais donc, comme je l'ai dit, au port. J'y louai le seul speronare qu'il y eut et je repris le chemin de mon hôtel. Sur le môle, je me trouvais nez à nez avec Maria et Ferdinand. Tous deux poussèrent un cri d'étonnement. « Comment êtes-vous ici et comment ne le savions-nous pas ?» me demandèrent-ils tous deux d'une seule voix. « Par la raison infiniment simple que tout le monde ignore que j'y suis, attendu la bienheureuse antipathie que Sa Majesté le roi de Naples professe pour votre très humble serviteur. » « Mais vous saviez que nous y étions, nous dit, me dit Ferdinand. Comment n'êtes-vous pas venu nous voir ?»« Je savais que madame y était, et hier au soir, à San Carlo, je lui ai payé mon tribut d'éloge. »« Et vous n'êtes pas venu me voir au théâtre ?» me dit à son tour Maria. « Non, et cela pour 2 raisons. Je gâche qu'il n'y en a pas une de bonne dans les deux. » Je gâche qu'elles sont bonnes toutes les deux, au contraire.
Voyons.
La première, c'est que, pour entrer au théâtre, il eut fallu dire mon nom, et qu'en disant mon vrai nom, c'est-à-dire Alexandre Dumas, j'étais pris à l'instant même et conduit à la police. Et qu'en disant mon faux nom, Pierre Durand, personne ne me reconnaissait, c'est vrai, mais pas vous plus que les autres, et que par conséquent, je n'arrivais pas jusqu'à votre loge. Dit Maria, je dois dire que si la première raison n'est pas tout à fait bonne, elle n'est pas non plus tout à fait mauvaise. Voyons la seconde. Ah, la seconde. Mais c'est qu'ayant appris votre futur mariage, je n'ai pas voulu me jeter au beau travers de vos amours pour y être reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Mais qui vous dit que vous eussiez été reçu comme cela ? Je ne connais pas les amoureux, n'est-ce pas ? Moi qui passe ma vie à en faire. Venons-nous de vous recevoir comme cela ? Je crois bien, dans la rue, mais il ne vous manquerait plus que de me faire une scène, parce que je vous trouble, moi, 400 000e. J'en ai cependant bien envie pour mon compte, dit le baron. Comment cela ? Parce que je suis furieux. « Et vous, madame, êtes-vous furieuse ?»« Par contre-coup, moi. »« Par contre-coup seulement, merci. »« Que vous arrive-t-il ?»« Ben, il nous arrive, enfin, puisque vous savez que nous nous marions, je n'ai rien à vous apprendre de ce côté-là. »« Non. »« Seulement, vous ne savez pas où nous voulions nous marier ?»« Non, je ne m'en doute pas. »« Eh bien, nous voulions nous marier à Sainte-Rosalie de Palerme. » pour laquelle madame a une dévotion toute particulière. Vous savez ce que c'est ? Et que Sainte-Rosalie ?
Oh, parfaitement. C'était la fille d'un riche seigneur de Rome, descendant de Charlemagne, qui se retira dans une grotte du Monte Pellegrino, où elle mourut vers le commencement du XIIe siècle ou vers la fin du XIe. Oh, est-il ferré sur sa Sainte Rosalie, hein? Ben, je le crois bien, parbleu. J'étais à Palerme lors de sa fête. Et comme elle est la patronne de la ville, je n'ai eu garde d'y manquer. Ah, et voilà tout ce que vous savez de Sainte Rosalie. Pardon, je sais encore qu'elle remplit à Palerme les mêmes fonctions que certains forgerons remplissent à Gretna Green. Eh bien, voilà justement pourquoi nous voulions avoir affaire à Sainte Rosalie de Palerme. C'était pour lui faire exercer ses fonctions à notre endroit. Ah, parfaitement. Eh bien, elle a refusé. Non, parlons-moi du monde. Mais vous dites que vous êtes furieux, cher ami. Ben, je suis furieux parce que nous comptions partir demain par le bateau à vapeur de Séville, s'il. Ah bon, et il ne part pas. Ah, il est en réparation, il a une roue cassée. Oh, le maladroit! Eh bien, faites-moi alors. Qu'avez-vous fait, vous? Ben, j'ai loué un speronare, allez au port en louer un autre. Nous en venons, il n'y en a plus, hein. Monsieur Durand venait de fréter le seul qu'il y eût. Ah, mais j'y pense, s'écria le baron. Quoi? Demanda Maria. Ben, c'est lui, monsieur Durand. Il vient de nous le dire. Oui, sans doute, c'est moi. Cédez-nous votre bateau. Eh bien, et moi? Oh, vous partirez plus tard, vous n'êtes pas pressé, vous ne vous mariez pas. Heureuse ignorance. Cédez-nous votre bateau. Et si l'on me reconnaît, et si l'on m'arrête? Diable, cédez-nous tout de même. Ah, il y tient. Attendez donc, et nous vous donnons passage gratis pour Messine ou pour Palerme. Mais je ne vais ni à Messine ni à Palerme. Vous y viendrez, pardieu le grand malheur. Justement, il manque à Marie un témoin, vous lui en servirez. Que madame m'invite, je verrai ce que j'ai à faire. Vous l'entendez, Maria? Mais Maria se taisait. Et comme le sang lui montait au visage, elle devenait rouge jusqu'aux oreilles. Eh bien, fit le baron, vous ne dites rien? Je n'ose. L'embarras de madame D était ma vengeance. Je résolus de la pousser à bout. Pour la première fois, je fus rancunier. Eh bien, lui dis-je, j'accepte, mais à une condition. Laquelle? C'est que c'est moi qui vous conduirai, qui vous prêterai mon bateau, qui vous déposerai sur la terre de Sicile. Top, dit Ferdinand, j'accepte. Oh, murmura Maria, c'est d'une indiscrétion. Dame qui veut la fin veut les moyens, et je veux la fin. Mais taisez-vous donc. Mais non, je ne veux pas me taire, je veux le crier sur les toits, au contraire. Et la chose est d'autant plus commode qu'ici les toits sont plats. Allons, madame, dis-je à Maria, laissez-vous convaincre. Comment, vous aussi? Sans doute, moi aussi, tout le premier. Non, s'il vous plaît, vous le second. C'est juste. Et quand partons-nous? Quand comptez-vous partir? Oh, demain au jour, si le vent est bon. Partons demain au jour. Nous devions partir qu'après-demain. Ah, avec le speronare, et nous mettrons bien un jour de plus qu'avec le bateau à vapeur, cela reviendra au même. Mais ma toilette. Ben, il est convenu que vous vous mariez en robe grise et en chapeau. Mais nos passeports. Mon cher Dumas, prenez le bras de madame, promenez-vous un instant avec elle à Chiaja, je passe à l'ambassade française, puis au ministère des Affaires étrangères, et je rapporte nos passeports. Ferdinand, Ferdinand! Ferdinand était déjà loin. Je pris le bras de Maria, que je sentis frissonner au contact du mien, et je m'acheminai avec elle à travers Chiaja. Nous arrivâmes, sans prononcer une seule parole, jusqu'à la jetée contre laquelle vient battre la mer. Puis nous nous arrêtâmes, silencieux, les yeux noyés dans l'étendue. Au bout d'un instant, je poussai un soupir, auquel Maria répondit par un soupir. « Ah, ma chère Maria, lui dis-je, que vous faites une grande folie tous les deux. » « Vous le croyez, me dit-elle, et moi j'en suis sûr. » En ce moment, notre amie viennoise fit un mouvement dans son lit. Je me retournai de son côté. « Ne faites pas attention, me dit-elle, c'est pour mieux respirer. »« Ne serait-ce pas, lui dis-je, pour mieux entendre. » « Vous êtes fou, elle dort comme Ève avant le péché. »« Allons donc, comme Ève avant le péché. »« Non seulement je vois une pomme, mais j'en vois deux. » Il n'en est absolument rien, ce qui n'empêcha pas notre viennoise de pousser un grand cri et de faire un prodigieux mouvement pour ramener son drap jusqu'à ses yeux. « Ah !» lui dis-je, « je vous y prends, curieuse. » Elle sortit ses deux mains du lit et les joignit, comme eût fait un enfant. « Je vous en supplie, dit-elle, soit, mais je ne puis à la fois parler pour deux personnes, parler à droite et regarder à gauche. Le moins qui puisse m'arriver, c'est de gagner un torticolis. »« Alors que demandez-vous ? » fit la belle viennoise. « Oh, je ne demande pas, j'exige. »« Oh, vous exigez ? » fit Lilia. « Oui, j'exige ou je me tais. »« Non, 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 qu'exigez-vous ? » demanda la viennoise. « Bien, je vais fermer les yeux. Vous viendrez vous mettre dans le même lit que votre ami. Je deviendrai peut-être fou de voir deux pareilles têtes sur le même oreiller, mais au moins, je n'attaperai pas le torticolis. »« Faut-il faire ce qu'ils veulent, Lilia ? » « Sans doute, puisque vous êtes mise à sa discrétion. »« Mais vous fermerez les yeux. Parole d'honneur. » »« Tiendra-t-il sa parole d'honneur, Lilia ?»« J'en réponds pour lui. »« Fermez les yeux, alors. » J'entendis marcher comme une ombre, je sentis passer comme un parfum, puis une petite voix toute tremblotante me dit « « C'est fait, vous pouvez regarder. » Les deux charmantes femmes étaient l'une près de l'autre, les bras enlacés, la joue de la viennoise sur la tête de Lilia. « Oh ! Si j'avais pu dire comme corrège, « Anche si io son pittore !» Je repris. Ferdinand avait mis en pratique l'axiome italien « Qui veut, va, qui ne veut pas, envoie. » Il avait tété, et une demi-heure après, comme il l'avait promis, il revenait avec les passeports. Il nous avait, comme je l'ai dit, laissé Maria et moi au bord de la mer. Pendant notre tête-à-tête, Maria m'avait raconté, avec cette complaisance que met la femme la moins coquette à un pareil récit, comment Ferdinand s'était épris pour elle d'une façon insensée. Comment, ne l'aimant pas assez pour répondre à cette passion, elle lui avait tenu rigueur. Et comment cette rigueur, à laquelle il ne s'est point, avait affolé Ferdinand, et comment, désespérant de l'avoir pour maîtresse, il lui avait offert de devenir sa femme. Il faut qu'il y ait pour la pauvre créature qui se trouve en dehors des conditions générales de la société quelque chose de bien séduisant dans ces trois mots « Soyez ma femme !» puisque presque toujours, elle est saisie non pas comme une balle au bond, mais avant même qu'elle ait touché la terre. Maria était belle, elle avait un talent plein de triomphes splendides et d'orgueilleuses joies, elle gagnait avec ce talent 50 000 francs par an, dont, tout en menant une vie très large, elle dépensait à peine le tiers, elle n'avait ni père ni mère qui puisse réclamer le contrôle de sa conduite, elle pouvait se laisser aller sans qui que ce fût au monde lui adressât un reproche, aux surprises de son cœur et même de ses sens, jouir enfin de sa beauté, de sa fortune, de son intelligence, sans doute la plénitude d'une liberté qui n'avait de compte à rendre à personne. Ferdinand, au contraire, avait une fortune nulle, un talent contesté, et tout charmant d'esprit, tout remarquable de manière qu'il était, ses avantages physiques n'étaient point assez grands, comme on l'a vu, pour combattre une certaine répulsion que Maria ressentait pour lui. Eh bien, dès qu'il avait dit ces trois mots magiques « Soyez ma femme », le charme avait opéré. Et l'homme, qui n'était pas assez sympathique pour devenir un amant, avait été regardé comme suffisant pour faire un mari. Il est vrai que, comme le chevalier Ubalde de la Jérusalem délivrée du Tasse, je n'avais eu qu'à faire siffler ma baguette pour dissiper tous les prestiges de la forêt enchantée, et qu'en réponse à ces mots « Oh, je crois que vous faites une sottise » était sorti de la bouche de Maria ce cri involontaire « Et moi, j'en suis sûr !» Mais il n'en était pas moins vrai que, soit fascination matrimoniale, soit honte de manquer à sa parole, soit répugnance à revenir en arrière, Maria était résolue à cesser d'être Maria D, c'est-à-dire une artiste sans égale, pour devenir Madame la Baronne Ferdinand de S, ce que tout le monde pouvait être. La chose me fut clairement démontrée par l'adhésion qu'elle donna au départ du lendemain. Je rentrai chez moi en réfléchissant à ce singulier rôle que le hasard qui m'amenait à Naples me faisait jouer dans la vie de nos deux amoureux. Je dis nos deux amoureux parce que Ferdinand me paraissait à lui seul avoir assez d'amour pour tous les deux. Pourquoi était-ce moi et non un autre que le hasard avait choisi? J'avoue que l'idée me vint que ce dieu qu'on le représente les yeux couverts d'un bandeau avait en soi peu soulevé son bandeau au moment où je passais et n'avait pas sans quelque intention cachée mis ainsi la main sur moi. Mais j'avoue que cette intention était si bien cachée qu'il m'était impossible d'apercevoir le plus petit bout de son oreille. La position me parut même un instant si ridicule pour moi que je fus prêt à abandonner mon speronare à mes deux pèlerins et à voyager en coricolo. En cherchant bien quel sentiment me retint, je crois que ce fut le même qui retenait le bonhomme Mercier à la vie, la curiosité. Soit curiosité, soit tout autre sentiment, je dormis mal. C'était tout bénéfice, nous devions partir au point du jour, mais quand une femme est d'un voyage, si peu coquette qu'elle soit, on ne part jamais à l'heure. À 8 heures, nous descendions vers Sainte-Lucie, où nous devions nous embarquer. Le capitaine du petit bâtiment nous accompagnait. À peine n'avions-nous fait 100 pas que nous rencontrâmes un prêtre. Ce prêtre nous croisait passant à l'autre gauche, double augure. Le capitaine secoua la tête. « Qu'y a-t-il, capitaine ?» lui demandai-je. « Mais il y a, » dit le capitaine, superstitieux comme un véritable Sicilien qu'il était, « que, si vous m'en croyez... » Il s'arrêta comme honteux de ce qu'il allait dire. « Eh bien, si nous nous en croyons, capitaine, que ferions-nous ? Vous remettriez le départ à un autre jour. Pourquoi cela ? Vous n'avez pas vu ? Si fait, un prêtre. Eh bien ? » Je me retournai vers Ferdinand. « Eh bien, » répétai-je. « Bah ! Dit en riant le baron, un prêtre ne me fait pas peur, c'est cela que nous allons chercher, justement. » « Il n'y a pas de mal à rencontrer les prêtres que l'on va chercher, » dit le capitaine, « mais ce que l'on ne cherche pas, c'est autre chose. Et vous croyez que ce prêtre nous portera malheur ? Soit à vous, soit à vos projets. » « Quant à moi, dis-je, je n'ai aucun projet, et la preuve, c'est que je croyais aller à Amalfi ou à Sorrente et que je vais à Palerme. Donc, ajoutai-je en riant et en me retournant vers Maria et Ferdinand, avis à ceux qui en ont des projets. » Ferdinand se mit à chanter l'air de la muette. « Le ciel est beau, la mer est belle. » C'était une réponse comme une autre, meilleure même qu'une autre. Nous continuâmes donc notre chemin vers le port. Notre petit speronare s'y balançait gracieusement. L'équipage, composé de 10 marins et d'un mousse, fils du capitaine, nous attendait dans sa tenue de fête. Quatre d'entre eux se tenaient aux deux extrémités d'une planche jetée du bord sur le bâtiment, nous faisant double rampe avec deux avirons. Maria passa la première. Je remarquai qu'elle était très pâle et que la main qu'elle appuyait sur la rampe improvisée tremblait fort. Ferdinand la suivait, léger et joyeux comme un pinson. Je venais le dernier, en songeant à la prédiction du capitaine, me demandant quel était le projet que la malencontreuse rencontre du prêtre dut faire avorter. Et, ne trouvant pas dans mon esprit un seul projet dont l'avortement pût me coûter un soupir, je commençais à croire que le présage ne me regardait point. On rentra à la planche dans le bateau, on leva l'ancre. Nos matelots se mirent à ramer avec un chant d'une douceur infinie, et nous commençâmes de glisser entre un ciel et une mer d'azur. Nous avions une douce brise, favorable en tout point, et juste ce qu'il fallait pour voir décroître Naples lentement et majestueusement. Capri, noyé dans le soleil du matin, apparaissait comme un nuage lumineux, tandis que toute la côte de Castellammare profilait à notre gauche sa gracieuse silhouette d'azur. Il était 11 heures du matin. « Bon !» s'écria tout à coup Ferdinand. « Et déjeuner !»« Comment ?» lui demanda Maria. « Vous n'avez pas songé aux vivres ?»« Moi ? Pas du tout. Est-ce que le capitaine aurait oublié les provisions par hasard ?»« Oh, voilà bien un fou !» s'écria Maria. « Oh ! Ou d'un amoureux, madame, lui dis-je. Par bonheur, j'ai eu plus de précautions que Ferdinand, moi. » Ce qui prouve, dit Maria en riant, que vous n'êtes ni fou ni amoureux, vous. Heureusement, non seulement pour moi, mais pour tout le monde, dis-je en m'inclinant. Car si j'avais été atteint de l'une ou l'autre de ces maladies au même degré que notre ami Ferdinand, nous ne risquions pas moins de mourir de faim. « Bah !» dit Ferdinand, « on vit d'amour. »« Oui, fis-je, mais ce qui regarde les amoureux manger l'ambroisie et boire le nectar... »« Ah, d'ailleurs, cher ami, continuai-je, en faisant signe à l'un des matelots qui remplissait à bord les fonctions du cuisinier et qui, sur mon invitation, apporta un énorme panier. D'ailleurs, libre à vous de vivre d'amour et de jouer le rôle de spectateur. Quant à madame... comme elle a avoué qu'elle tenait encore à la terre par un coin de l'estomac, je m'empresserai de lui offrir une tranche de ce pâté ou l'aileron de cette dinde. Apporte le second panier, Pietro. Le second panier, mon ami, c'est une chose encore plus méprisante pour un amoureux que du dindon ou du pâté. C'est du vin de Bordeaux, du La Rose assez médiocre. Aussi, à votre place, cher ami, je n'y goûterai même pas du bout des lèvres. Pouf ! Dit Ferdinand, si vous mangez, je mangerai. Oui, pour nous faire plaisir. Allons donc, avouez que vous aviez faim. Non, parole d'honneur, c'est vous qui m'y avez fait penser. Maria grignota du bout des dents une croûte de pâté et son aileron de dinde. Elle trempa le bout de ses lèvres dans un verre de vin de Bordeaux. Elle eut enfin cette suprême adresse qu'ont les femmes de manger peut-être relativement autant que les hommes sans avoir l'air de toucher à rien. Ferdinand dévora. On le voit, le voyage ne commençait pas sous de si fâcheux auspices que l'avait fait entrevoir le capitaine. Nous avions bonne brise, nous faisions 2 lieues à l'heure, et il était probable que plus nous avancerions vers la haute mer, plus le vent fraîchirait, par conséquent, plus nous irions vite. Mais, contre cette prévision qui était celle du capitaine lui-même, vers le soir, au contraire, le vent mollit et le mouvement du petit navire se ralentit visiblement. Nous nous occupâmes alors des préparatifs pour la nuit. Le Speronare était à son arrière, ornée d'une espèce de tente faite avec de grands cerceaux arrondis, allant d'un bordage à l'autre, et recouvert d'une toile cirée.
Dans cette tente, destinée primitivement à être ma chambre à coucher, j'avais fait, alors que je croyais voyager seul, porter un matelas de maroquin, le meilleur de tous les matelas dans les pays chauds, attendu qu'il reste toujours frais. Mais au moment où j'avais réfléchi que, selon toute probabilité, le voyage durerait 4 ou 5 jours et autant de nuits, j'avais augmenté mon matériel de 2 matelas. Puis, après une conversation dans laquelle je m'étais, avec toute la discrétion possible, enquis auprès de Ferdinand du degré d'intimité où il était avec Maria, conversation dont le résultat avait été tout à l'honneur de la célèbre artiste, il avait été reconnu que l'on tirerait tous les soirs 2 des 3 matelas hors de la tente et que Ferdinand et moi coucherions sur le pont tandis que la cabine resterait la propriété entière de Maria. Des rideaux glissant sur une tringle formaient toute la fermeture de ce sanctuaire que gardait mieux que les portes de fer de Derbend notre commun respect. Nous suivîmes donc le programme et, la nuit venue, nous tirâmes nos 2 lits sur le pont. Mais cette nuit était si belle, mais il y avait tant d'étoiles semées sur ce ciel et reflétées dans cette mer, que c'eût été péché, comme disent les Napolitains, que de fermer les yeux. Nous nous assîmes donc sur le pont et ouvrîmes les yeux tout grands. Un des matelots avait une espèce de guitare à 3 cordes. Maria la prit et chanta. Au bout de 5 minutes, capitaine et matelot faisaient cercle autour de nous. Au bout de 10 minutes, ils s'étaient constitués en chœur et répétaient avec l'admirable facilité musicale des peuples du Midi les refrains des chansons ou des airs que chantait Maria. Tout à coup, Maria joua et chanta tout à la fois, sans rien dire, sans transition, une de ses plus vives saltarelles. Ce fut un cri dans tout l'équipage. Pendant quelques minutes, le respect contint nos hommes qui se contentèrent de se balancer sur un pied et sur l'autre, puis du balancement on passa au trépignement et du trépignement à la danse. Au bout d'un quart d'heure, il y avait bal général, bal d'autant plus complet que les danses du Midi ont été réglées par un grand maître de ballet inconnu, dans la prévision qu'un temps viendrait probablement où l'on manquerait de femmes. La femme n'est donc pas un élément absolument nécessaire aux danses du Midi. Pendant ce temps-là, le navire, profitant d'un reste de brise, allait tout seul, à sa volonté et comme un être intelligent. On dansa et l'on chanta jusqu'à 1 heure du matin. Enfin, Maria se retira dans la cabine. Nous nous couchâmes, Ferdinand et moi, sur le pont. Les matelots descendirent par les écoutilles et le pilote resta seul au gouvernail. Le vent faiblissait de plus en plus. La mer était calme comme un miroir, à peine sentait-on le mouvement du navire. On eût dit qu'il flottait dans l'air. Nous nous éveillâmes avec le premier rayon du jour. Le navire, pendant toute la nuit, n'avait pas fait 1 lieue. Nous nous étions endormis en vue de Capri. Il faisait un temps magnifique, le ciel était splendide. Les amoureux seuls, s'ils étaient pressés, pouvaient se plaindre d'un pareil temps. Maria passa sa tête blonde à travers les rideaux de la cabine. « Eh bien ? » demanda-t-elle. « Eh bien, cher ami, lui dis-je, nous en avons pour 8 jours. »« Mais avons-nous 8 jours de provisions ?»« Dame, avec la pêche, nous pouvons faire face à 1 semaine de calme. »« Alors va pour 1 semaine de calme. » Et elle rentra sa tête dans la cabine. Les rideaux se refermèrent sur la blonde apparition. « Et moi, dit Ferdinand, il n'y a rien de plus pour moi ?» « Si fait, répondit la voix du fond de la cabine, 1000 tendresses. »« Oh, fit Ferdinand, 1000 tendresses, c'est bien peu. » Je m'approchai du capitaine. « Et vous, lui demandai-je, pour combien de jours croyez-vous à ce temps-là »
Bon, j'en sais rien, demandez au prophète. Mais voyez-vous, nous avons rencontré un prêtre en embarquant, et je serais bien étonné si notre voyage s'accomplissait sans accident. Le prophète, c'était le pilote, vieux loup de mer, nommé Nuncio, qui avait été embarqué à 10 ans et qui naviguait depuis 40. Je m'approchai de lui. « Beau temps, prophète ?» lui demandai-je. Il regarda du côté du couchant. « Oh, il faudra voir, » dit-il. « Comment il faudra voir ?»« Oui. »« Quoi ?»« Ben, ce que cela durera. S'il change pour nous donner un peu de vent, il n'y aura pas de mal. »« Ouais, mais s'il change pour nous en donner beaucoup, qu'appelez-vous beaucoup ?»« Ben, beaucoup, cela veut dire trop. »« Ah, ah, vous craignez une tempête ?»« Non, une bourrasque. » Mais ne parlez pas de cela à la dame. Pourquoi ? Peut-être ne chanterait-elle plus. Oh, vieux prophète, on voit bien que nous sommes dans le pays des sirènes. Oh, c'est que hier, elle a chanté toutes sortes d'airs de notre pays, et vous ne savez pas le plaisir que cela fait quand on est entre le ciel et l'eau d'entendre un chant de son pays. Eh bien, sois tranquille, elle chantera. Tâchez qu'elle chante le plus près possible du gouvernail. Je lui dirai ton désir, et comme ton désir est un compliment, elle y accédera. En ce moment, je sentis comme une légère secousse. Nous n'avions plus que le foc et une espèce de misaine. Je crus à un retour du vent. « Non !» me dit Nuncio, qui s'aperçut de mon erreur. « Ce sont les camarades qui vont essayer de ramer. » Effectivement, 6 de nos matelots avaient tiré de l'entrepont 6 longs rames et ils commençaient de nager. Les avirons, comme dans les bateaux d'ordinaire, s'amarraient à des taquets, seulement les hommes ramaient debout afin que l'extrémité de leur rame pût atteindre l'eau et mordre dessus. C'était un rude labeur, mais bientôt ils en adoucirent la rudesse en chantant une chanson d'une mélancolie charmante dont les premiers mots étaient « Sparano la vela ». À la fin du premier couplet, Maria était sortie de la cabine et se tenait debout, écoutant, tandis que Ferdinand, son album à la main, notait cette mélodie d'une extrême simplicité. Au second couplet, Maria s'approcha de moi. « Faites-moi donc des vers là-dessus, » me dit-elle. « Bon, lui dis-je, vous ne chanterez pas cela dans un concert. »« Non, mais je me le chanterai à moi-même, ce sera un souvenir. »« Convenez que je suis bien bon de vous aider à garder un souvenir de votre pèlerinage conjugal à Sainte-Rosalie. »« Vous me refusez ?»« Non, Dieu m'en garde. » »« En vérité, je vous jure que vous eussiez eu tort, car mon intention et d'isoler ce souvenir de tout le présent pour le rattacher à un autre souvenir du passé. Madame la baronne, madame la baronne. Non, je ne le suis pas encore. Pas un petit peu. On parle moins du monde. Je m'inclinai. Vous aurez vos verres dans un quart d'heure. J'allais m'asseoir du côté opposé à Ferdinand. Et tandis qu'il copiait sa musique à bâbord, je scandais mes vers à tribord. Au bout d'un quart d'heure, Maria avait ses vers. « Attendez, lui dis-je, il y a quelque chose à faire de mieux que cela. »« Quoi ? Copier la chanson originale ?»« Après, je vais faire un refrain qui se répétera en chœur. »« Après ?» Ferdinand fera la musique séance tenante. Après ? Eh bien, après, ce sera tout. Vous chanterez les solos et tous nos matelots reprendront le refrain en chœur. Tiens, c'est une idée. Il m'arrive quelquefois d'en avoir. Témoin celle que je vous communiquais hier. Où cela ? Mais au bord de la mer. Laquelle ? Que vous faites une sotte en vous mariant.
Oh, ne parlons plus de cela, nous en ferions une autre. Oui, mais au moins celle-là ne serait pas irréparable. Pourquoi? Parce que nous ne serions pas assez bêtes pour nous marier, nous. Homme immoral que vous êtes, laissez-moi. Allez copier vos vers et en étudier la musique. Oh, la musique, je la sais déjà. Et elle se mit à chanter l'air. Vous le voyez, lui dis-je, vous faites votre effet. Ne vous occupez pas de moi et composez votre refrain, vous. Je composais un refrain de deux vers italiens dans le sens de la chanson. Puis j'allais porter ces deux vers au capitaine pour qu'il les fît passer en patois sicilien. Ce ne fut pas long, en Sicile comme en Calabre, tout le monde est poète et musicien. Mes deux vers patoisés, je les portais à Ferdinand, qui en un instant eût fait la musique. Attention maintenant, dis-je à nos rameurs. Ferdinand se leva et leur fit répéter le refrain. Alors Maria s'approcha d'eux, et sur le pont, debout, les yeux au ciel, elle commença la mélodieuse cantilène. Le premier couplet fini, les matelots chantèrent le refrain avec un admirable unisson. Puis Maria reprit. Il me serait impossible de rendre le charme de cette scène. Le pilote était couché sur le toit de la cabine et avait complètement cessé de s'occuper du gouvernail. Chaque matelot avait passé sa rame sous sa jambe et la maintenait avec son jarret afin d'avoir les deux mains libres pour applaudir. Quant à nous, nous regardions Maria, Ferdinand avec un amour indicible, moi avec une admiration réelle. Pietro, en sortant d'une écoutille avec un plat de chaque main et un pain sous son bras, eut seul le pouvoir de nous tirer de notre contemplation. Les matelots s'empressèrent de nous étendre une voile et nous nous assîmes pour déjeuner à l'ombre de cette voile. Après le repas, je laissai causer Ferdinand avec Maria et je m'approchai du pilote. « Eh bien, ce fameux vent, lui dis-je, il paraît qu'il ne se presse pas. « Avez-vous bien déjeuné? » demanda le pilote. « Très bien. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, dînez encore mieux. » Pourquoi cela? Parce que demain vous ne serez guère en train de déjeuner ni même de dîner. Bah, vous riez! Mais les camarades ont dû vous dire que je ne riais jamais. Et vous dites, prophète, je dis que nous aurons du bonheur si nous n'avons pas du bouillon cette nuit. Eh bien, pourquoi alors, à force de rames, ne gagnons-nous pas quelques criques de la côte de Calabre? Nunzio jeta les yeux sur la côte de Pestum, qui apparaissait à notre gauche comme une ligne d'azur aux 12 insulations. Puis, secouant la tête, jamais il n'aurait eu le temps, dit-il, il leur faudrait 10 ou 12 heures. Tandis qu'à la bourrasque, il lui en faudra que combien? Que 7 ou 8. Je tirai ma montre. Alors, dis-je, ce sera pour 9 heures. Oui, vers ce temps-là, dit Nuncio, 1 heure ou 1 heure et demie, après l'Ave Maria. Mais n'en dites rien, c'est inutile de tourmenter d'avance la petite dame. Vieux prophète, lui dis-je en riant, tu as un faible pour elle. Je ne comprends pas, répondit-il. Je dis que tu es amoureux de notre belle voyageuse, quoi. Oui, mais comme je suis amoureux de la Madone. Et il salua comme on salue en passant devant une sainte image. J'allais rejoindre mes compagnons. La journée se passa à jouer de la guitare et à chanter. Je dis des vers d'Hugo, de Lamartine et d'Auguste Barbier, et j'entendis mes matelots qui ne me comprenaient pas et qui croyaient, non pas que je répétais de mémoire, mais que je composais, m'appeler improvisatore. Cela leur donna une grande considération pour moi. À Naples, l'improvisateur est demi-dieu. En Sicile, il est dieu tout à fait. Pendant l'après-midi, cet azur du ciel, si profond et si transparent, s'effaça peu à peu. Le firmament prit une teinte laiteuse et maladive. Le soleil se coucha dans des nuages qui ressemblaient aux vapeurs des marais pontins. L'heure de l'Ave Maria était venue. Le pilote prit dans ses bras le fils du capitaine, le mit à genoux sur le toit de la cabine, et l'enfant dit pour lui et pour nous cette prière du soir, si solennelle en Italie, plus solennelle en mer que partout ailleurs. Pendant que l'enfant disait sa prière, un gros nuage noir montait, poussé par un vent du sud-ouest. C'était le bouillon promis par Nuncio. Aussi, la prière finie, me toucha-t-il du coude tout en mettant un doigt sur ses lèvres. « Je le vois par Dieu bien !» lui répondis-je. Et de temps en temps aussi, les matelots et même le capitaine tournaient les yeux du côté du nuage qui s'avançait rapidement en étendant, comme eût fait un aigle gigantesque, une de ses ailes vers le nord et l'autre vers le sud. La lune apparaissait ou transparaissait au milieu d'une vapeur blafarde qu'allait bientôt recouvrir ce nuage qui s'avançait à grands pas. Par moments, ses flancs obscurs se lézardaient et un éclair courait comme un serpent de feu dans ses épaisses ténèbres. On n'entendait pas encore la foudre, mais on la sentait venir. La mer, sans qu'un seul souffle de vent passât encore dans l'atmosphère, devenait clapoteuse, comme si quelque feu souterrain, se croisant du Vésuve à l'Etna, la faisait frissonner. Bientôt, à l'horizon d'où venait le nuage, et paraissant marcher du même pas que lui, nous vîmes s'avancer une ligne d'écume, tandis que de place en place, on voyait à la surface des flots se dessiner ces espèces de frémissements que les marins appellent des pattes de chat. Enfin, un souffle brûlant passa dans nos cordages et fit frissonner la seule voile qui, avec le foc, resta au bâtiment. « Prenez deux ris !» cria le pilote à l'équipage. En même temps, le capitaine s'avançant vers nous et s'adressant particulièrement à Maria, « Signora, c'est vous, seigneur, dit-il, n'ai point de conseil à vous donner, mais à mon avis, vous feriez bien de rentrer dans la cabine. »« Y a-t-il danger ?» demanda Maria d'un ton assez calme. « Non, mais nous allons avoir bourrasque, c'est-à-dire pluie et vent. Vous pourriez rester sur le pont, vous seriez en quelques instants trempé jusqu'aux eaux et où d'ailleurs vous gêneriez la manœuvre. » Je connaissais ces sortes de recommandations et je me retournai vers Maria. « Vous entendez, madame ?» lui demandai-je. « Voulez-vous bien nous donner l'hospitalité pour cette nuit ?»« Vous n'en doutez pas, dit-elle. Je l'espère, du moins. » En ce moment, il va par le travers du Speronare, une bouffée de vent si violente que le bâtiment se pencha sur le côté et trembla le bout de sa vergue dans l'eau. En même temps, un éclair, pendant la durée duquel on vit aussi clair qu'en plein jour, fendit le ciel. « Rentrons, rentrons, » dis-je à Maria. « Le capitaine a raison, nous gênerions la manœuvre. » Au même instant, la voix de Nuncio se faisait entendre. « Tutto a basso !» criait-il. Les matelots se précipitèrent vers la voile qui faisait plier la vergue comme un roseau. Je fis entrer Maria dans la cabine, j'y poussai Ferdinand et j'y entrai derrière elle. À peine les rideaux étaient-ils retombés derrière moi qu'un effroyable coup de tonnerre éclatait et que le bâtiment éprouvait une telle secousse que Maria tombait sur son matelas en jetant un cri, tandis que nous restions debout, Ferdinand et moi, quand nous cramponnant l'un à l'autre.